joint meeting of the ICANN board in the commercial auditorium room.
We'll be beginning in just a moment.
On va commencer dans une petite seconde. Pour être bien clair par rapport à l'organisation, il y aura trois coupures ou trois divisions d'une demi-heure avec chacune des unités constitutives. Première partie avec les fournisseurs de services Internet. Steve Crocker, micro. Étant donné qu'on est déjà en retard de 5 minutes, on va commencer. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous recevoir. On aime rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais j'aimerais vous présenter avant les nouveaux membres du conseil d'administration qui nous ont rejoints. Et vous pouvez le faire de votre côté aussi. De notre côté, donc, les nouveaux, Leto, Louise Viss et Ron. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous lever pour que tout le monde vous voie? Je peux vous dire qu'ils ont déjà bien participé, sont bien dans le bain et sont déjà bien intégrés. À vous. Merci, Steve. Tony Holmes au micro. Nous attendons avec impatience de pouvoir parler avec vous. Donc, quelles sont les questions d'intérêt du côté des ISPC? Alors, d'abord, acceptation universelle. Et pour aborder cette question, je vais passer la parole à Christiane. Christiane au micro, oui, acceptation universelle. Et la question plus générale de la sensibilisation technique au sein de l'ICANN. L'une des raisons pour lesquelles on souhaitait commencer sur cette question, c'était qu'on veut une orientation. Mais surtout, on veut d'abord, dire merci parce que le conseil d'administration a approuvé le budget pour l'UASG et un effort fondé sur la communauté. On vient de finaliser notre deuxième journée complète d'atelier de travail et nous travaillons vers la création d'un guide d'orientation CIO qui devrait être publié d'ici janvier, qui va servir pour orienter les discussions sur les questions importantes touchant à l'acceptation universelle. Cela n'aurait pas pu voir le jour sans le grand soutien du conseil d'administration de l'ICANN. Donc, merci. L'une des choses que nous souhaitions aborder est la chose suivante. Au sein de la communauté ISPC, c'est une question importante, tout comme l'était avant la question de la collision des noms, parce que au sein de la communauté technique de l'ISPC, cela est important pour nous parce que c'est important pour les utilisateurs. Et on nous considère nous-mêmes comme le grand bureau d'aide au niveau mondial pour la communauté de l'Internet. La première question que nous avons par rapport à l'orientation que nous attendons de vous, c'est comment est-ce que le conseil d'administration va envisager le travail de l'UASG? Quelles sont les mesures qu'ils vont chercher pour déterminer le succès de ces mesures? Et j'aimerais commencer par un point spécifique. Le domaine où nous n'avons pas reçu de considération budgétaire, c'est la sensibilisation. Est-ce que cela est dû? Voilà. L'une des choses qu'on voulait faire, c'était aller dans une centaine d'expositions commerciales et l'importance pour souligner l'importance de l'acceptation universelle et se concentrer sur un nombre plus limité et aller directement voir les grands fournisseurs de mails, les grandes alliances de développeurs, de concepteurs de logiciels. Mais ce dont on a besoin, c'est de plus grandes ressources pour toucher ces personnes. Ma grande question est comment pouvons-nous faire? Steve Crocker au micro, oui, je vais vous donner mon point de vue et je vais laisser les autres répondre également. D'abord, je pense que c'est excellent que vous fassiez ce travail. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, sachez que beaucoup des logiciels que les utilisateurs finaux utilisent et qui ne sont pas encore prêts pour les IDN. Donc, nous avons un problème ici avec les nouveaux ou plutôt les domaines de premier niveau qui ont été ajoutés de plus de 3 lettres. Donc, il y a ici un retardement dans le processus de développement des logiciels. Mais je pense que c'est une excellente chose que vous fassiez cela. J'attends avec impatience de voir le rapport en janvier. Si ça peut vous aider, sachez que le conseil d'administration, au début du mois de janvier, va examiner le budget. Donc, on peut prévoir un paquet là-dessus. Par rapport aux décisions qui consistent à mettre plus d'énergie là et moins là, d'accord, nous sommes chargés d'approuver un budget, mais on peut tous participer. Mais c'est une question importante. Et pour revenir à votre question, que pouvons-nous faire? Je pense que c'est presque une question commerciale. Est-ce que vous pouvez voir le rapport entre ce qui a été dépensé ou investi et les résultats obtenus? Je pense qu'on peut les trouver, en faire rapport et les démontrer. Bien sûr, on ne peut pas toujours le faire, mais j'aimerais inviter les autres à répondre aussi à cela. Peut-être Bruce Tomkin au micro, oui. En termes, pour revenir à une discussion que j'ai eue avec l'unité constitutive des parties commerciales, il y a d'abord la couche de l'acceptation universelle, puis la couche de l'infrastructure. Et il y a les bureaux d'enregistrement qui demandent également un soutien pour les systèmes de nommage, etc. Ensuite, il y a les applications Internet fondamentales. Et je pense que vous avez déjà pris contact avec ces groupes pour qu'ils soient conscients de l'importance de cela. La troisième couche, ce sont tous les autres sites web pour qu'ils acceptent cette contribution par rapport au nom de domaine et aux adresses mail. Ça, c'est très important. Alors oui, évidemment, vous pourriez aller voir chacune de ces personnes, mais ça représenterait beaucoup d'argent. L'autre possibilité, c'est d'investir dans la création d'une mise en œuvre de référence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent en ligne, des bibliothèques et autres, pour vérifier les erreurs et les adresses mail. Il faudrait peut-être investir, plutôt que de se déplacer dans chacune des conférences qui ont lieu de par le monde, investir plutôt dans ce type de bibliothèque. Et comme Steve l'a dit, au niveau du budget, la manière dont on travaille habituellement, c'est qu'on fait une demande budgétaire qui passe par tout le processus budgétaire. Puis, on lie cela à notre plan budgétaire et plan stratégique. Et on voit comment ça peut s'intégrer. Et là, encore une fois, si vous pouvez nous fournir des données spécifiques pour attester de vos résultats, alors ça va aider le conseil d'administration, comme Steve l'a dit, pour qu'on soit plus spécifique dans notre ligne budgétaire. Christiane au micro, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En plus de cela, ce qu'on fait, c'est de jouer le rôle d'agent de coordination entre tous pour s'assurer qu'il n'y a pas un chevauchement d'efforts. Tony Harris souhaitait intervenir aussi. Tony Harris au micro de l'ISPC. Je travaille en Argentine, comme la plupart d'entre vous le savent. Ça pourrait être intéressant de savoir que pour ce qui concerne l'acceptation universelle, nous avons tenté de faire prendre conscience aux gens de l'importance de l'IPv6 en Amérique du Sud pour essayer de résoudre ce problème. Mais nous nous sommes aperçus, il y a un moment maintenant, il y a quelques mois, que l'IPv6, la mise en œuvre de l'IPv6 atteignait 3% à peine. C'est un mauvais résultat. Donc, on se concentre sur l'assistance technique pour faire en sorte que l'IPv6 soit résolu dans tous nos échanges Internet et nos contacts de réseau dans toute l'Amérique latine. Et il nous faut aussi actualiser l'Internet. On ne veut pas présenter l'acceptation universelle comme quelque chose qui a échoué, parce que ce n'est pas la faute de l'ICANN. C'est quelque chose qui est défini par les programmes de par le monde. par les programmateurs de par le monde. Donc, on est très prudent dans nos efforts par rapport à aux gens qui disent, voilà, l'Internet doit être actualisé et vous devriez contribuer à cette actualisation. J'ai entendu des commentaires selon lesquels les CIO devraient être ou seraient importants par rapport à cela. Et moi, je m'assurais que ça s'est actualisé par rapport à l'acceptation universelle, en particulier parce qu'ils vont perdre des parts de marché ou que les clients ne vont pas pouvoir finaliser leurs transactions. Merci, Christian au micro. Il y a un autre commentaire, mais peut-être que Doug préfère parler d'abord.
Lazac au micro. C'est la dernière fois que je parlerai. Alors, Tony a raison, le parallèle IPv6 existe. Du point de vue historique, les opérateurs régionaux ont commencé à allouer, à attribuer des IPv6 il y a très longtemps, hein, c'était en 99. Donc, par rapport au commentaire de Steve sur le retour sur investissement, après les millions de dollars, d'euros, de pesos qui ont été dépensés là-dessus, eh bien, nous n'avons pas réussi en termes de mise en application. Il y a plusieurs étapes et mises en place. Vous les en avez identifiées pour certaines. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le domaine de l'IPv6, mais il faut revenir dans les communautés, dans les lieux où on ne se rend pas nécessairement pour, donc, lors d'une conférence, installer un stand, etc. Ce type de sensibilisation est important. Il est également important de rassembler les bonnes personnes pour les envoyer dans les sociétés. Lorsque vous vous adressez aux différents conseils d'administration, parlez aux personnes qui sont présentes, pas aux autres. La personne qui est en tête de ce conseil, c'est à cette personne que vous devez vous adresser et le reste suivra. Autre chose, c'est de voir un peu ce qui peut être fait au sein de l'IETF. Il y a peut-être des choses qui pourront être faites à ce niveau-là, des choses en termes d'information, etc. Ça aussi, ça existe. Je crois que l'ICANN doit être préparé à dépenser autant d'argent sur l'acceptance universelle que ce qui a été dépensé pour la promotion des nouveaux GTLD. Cela n'a pas été avec l'IPv6. Alors, de savoir si cela sera fait avec l'acceptance universelle, c'est autre chose. Mais je crois qu'il faut que les gens produisent des candidatures avec cette capacité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, beaucoup d'idées. Je crois que vous allez dans le bon sens, mais je crois que si on considère ce que les opérateurs de registres régionaux ont fait pour proposer l'IPv6, eh bien, je pense qu'on peut trouver d'autres voies. Intervenant au micro, merci beaucoup pour votre intervention. Merci de nous soutenir dans ce que nous faisons. Alors, la deuxième moitié, Steve Crocker au micro. Je vous interromps. Une petite chose qui pourrait avoir de la valeur, c'est d'essayer de changer de terminologie. L'IPv6 peut être défaut et on pourrait traiter les autres adresses comme des adresses non-IPv6. Ça me plaît, ça. Et je pense que c'est une bonne idée par rapport aux autres avis que nous cherchons. L'IPv6 vraiment cherche un petit peu de savoir comment faire en termes d'enchères. Lorsqu'on essaie de voir s'il y a la possibilité de créer une sorte de confiance par rapport à la sensibilisation, questions d'acceptance universelle, les questions de collision des noms, tout ceci, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre d'argent pour voir où nous allons avec notre unité constitutive. Formulez donc ces idées et donc communiquez-les. Il y a des recommandations spécifiques que vous avez peut-être sur les manières dont nous pouvons nous charger de ceci. Je répondais à votre commentaire par rapport aux produits des enchères. Donc, il y a des moyens qui existent. Il y a un processus de commentaires publics qui est en place, qui est en cours, pardon. Et je ne veux pas vous distraire par rapport à ce dont on parle, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans les webinaires. Donc, c'est un des moyens, mais c'est une une idée intéressante. Merci beaucoup, Dave. Nous allons faire le suivi par rapport à ça. Je crois qu'une des choses qui ressort de cette conversation, c'est la reconnaissance comme quoi l'acceptation universelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va réparer rapidement. C'est quelque chose qui va se produire au fil du temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles le modèle de confiance serait utile. Et également, cela nous permet de passer à notre question suivante, à savoir si l'ICANN est focalisé sur une des questions que nous connaissons tous. Au sein des ISP, nous sommes assurés de sensibiliser nos adhérents de manière à parler de cette question. Et bien sûr, personne ne sera surpris si je vous dis que lors de la dernière révision des NSO, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, nous avons été déçus puisque les questions structurelles n'ont pas été abordées. Et c'est vraiment le point de vue de notre groupe de représentants. Pour nous, cela représente un obstacle pour ce que nous cherchons à faire. Nous avons dépassé certains des obstacles puisque nous sommes ici en tant que ISP et nous parlons au conseil d'administration. Et nous parlons justement de questions très spécifiques, de questions qui ont un impact sur nous en tant qu'ISP. Et donc, je vais passer à un autre élément de cette question maintenant, mais en partie, la frustration que nous ressentons est la suivante. Hier, avec les boursiers, je leur ai parlé hier, et donc, ils ne sont pas bêtes, ils nous écoutent, puisque certains font partie de notre représentant. Ils regardent un petit peu la structure que nous suivons. Et une des questions qui a été posée, c'est si vous avez une liste de priorités, comment est-ce que vous allez les faire passer dans cette structure? Et donc, c'était une excellente question, parce que si on nous demande quelles sont nos priorités, quelle est notre visation parmi ces différentes questions, nous avons en fait souvent différentes listes de priorités. Une des priorités que nous avons du point de vue des ISP, c'est que nous savons que nous devons, et en lien avec davantage d'ISP, il faut qu'ils soient attirés, qu'ils viennent ici. Beaucoup d'entre eux s'occupent de leur réseau, des questions opérationnelles, et il serait vraiment intéressant de voir si venir aux réunions de manière à ce que nous puissions nous focaliser sur les questions qui les concernent. Et ça, c'est quelque chose que la communauté CC a fait et ils ont réussi dans ce domaine. Pour nous, il est extrêmement difficile de promouvoir ceci sans avoir la bonne structure. Donc, il y a deux questions qui ressortent de tout ça. Premièrement, nous avons toujours le sentiment qu'il existe une question, un problème de structure au sein de la GNSO et qu'il faut s'en occuper. Et la question, c'est de savoir comment avancer. Pour nous, la réponse n'est pas que si cela doit se produire, eh bien, cela doit se passer par la communauté, par processus ascendant. Eh bien, non, ce n'est pas possible. Au sein de la GNSO, il y a des gens qui sont tout à fait contents de ce qui existe actuellement. Et ils ne s'engagent pas du tout. Ça. Nous passons également dans une nouvelle ère. Nous arrivons à une nouvelle ère avec une stratégie de réunion ABC 30. Et donc, ces réunions, on les considère du point de vue de la communauté, de son propre point de vue, et qu'on considère la structure que l'on a, bien, il nous faut, encore une fois, revoir les choses, parce qu'on est un petit peu contraint par notre propre structure. Alors, comment considérer ceci? Il nous faut absolument avoir cette discussion au sein de les constitutifs. Ce n'est pas une question uniquement de restructuration de la GNSO, c'est vraiment une question de vision générale. Comment peut-on être efficace à l'ICANN si on rassemble les efforts des groupes de travail intercommunautaires qui ont bien réussi et en quoi cela est en lien avec l'organisation, la structure des réunions? Donc, c'est une vision beaucoup plus globale des choses. Ce n'est pas uniquement une question de restructuration de la GNSO. Donc, il y a plusieurs questions dans tout ça. Donc, la structure et puis comment se focaliser sur les questions qui sont importantes pour nous dans le nouvel environnement vers lequel la ICANN s'oriente. Renali Abdourahim au micro. Je suis présidente du comité sur l'efficacité opérationnelle. J'aimerais encourager ce que Paul Rahim a dit. Et j'aimerais en ajouter un petit peu. Merci pour vos commentaires sur la structure. Je crois qu'il est très important de noter qu'en termes de changement structurel, bien, cela doit être suggéré de manière ascendante. Vous avez vu d'autres qu'il existe des problèmes au sein de la GNSO. Et si vous lancez cette discussion au niveau de la GNSO, à ce moment-là, nous pouvons lancer le processus. C'est quelque chose qui ne doit pas être imposé du haut. Le Conseil peut effectivement faciliter le processus ensuite. Ce qui est de la révision de l'ICANN d'une manière générale, nous sommes en train d'étudier ceci. Nous commençons à avoir des discussions au sein du comité en lui-même, de manière à identifier quelle est l'approche appropriée. Nous souhaitons également en parler avec la communauté lorsqu'elle sera prête. Mais la difficulté, c'est que la GNSO a des difficultés qui existent depuis un certain temps. Cette conversation doit être conclue et il faut vraiment qu'il y ait une solution qui puisse être trouvée au niveau de la GNSO. Nouvel intervenant au micro. Je crois que ce que nous souhaitions en fait dire par tout ça, c'est que le conseil de la GNSO, en termes d'approche ascendante, la GNSO, ce n'est pas le bas. Hein. Nous sommes le bas. Nous sommes le point de départ et nous sommes justement en train de lancer la conversation. Nouvel intervenant au micro. Merci, Malcolm. C'est une question clé pour nous parce que, effectivement, si on doit passer par le conseil, il y a des membres de la communauté de la GNSO qui ne souffrent pas des mêmes problèmes que d'autres membres de la communauté. Donc la question, c'est vraiment de s'impliquer, surtout lorsque les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc pour ceux qui souffrent et qui ont des problèmes, si les choses ne fonctionnent pas bien, il est important de générer un mécanisme par le biais duquel on peut s'occuper de ces problèmes. Alors pour certains, ce sera peut-être davantage d'interactions directes grâce à une amélioration de la structure par la création d'un comité. Mais ce n'est pas comme ça par le passé qu'on a procédé. Donc il faut considérer les choses de manière beaucoup plus large. Et je crois que le moment est venu de le faire parce que nous sommes justement en train de planifier les réunions à venir. Nous avons donc l'opportunité de structurer les réunions de manière telle que toute la communauté, de manière un petit peu différente, peut-être en basant les réunions sur des sujets. Je ne sais pas. À la GNSO, tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas, cela sera en conformité avec la dernière révision, donc de se focaliser sur la gestion des politiques, traitement des politiques au niveau de la GNSO. Et je crois que nous n'en sommes pas là au niveau de la GNSO. Cela pourrait nous libérer de ceci et on pourrait faire les choses différemment au sein de la communauté. À mon avis, le moment est venu de le faire, mais je ne pense pas que si on renvoie ceci à la GNSO, on obtiendra une solution et on n'obtiendra pas non plus de visibilité. Zach au micro. Merci, Steve.
Tony, I guess the real big issue here is...
Je crois que la question, c'est que la révision de la structure n'est pas vraiment la bonne approche. Vous avez parlé de certains des problèmes. Vous voyez ce qui se passe. Et comme Renalia l'a dit, et d'ailleurs c'est une discussion qui existe au sein de la communauté, d'ailleurs il y a certaines choses qui sont faites, mais quelle est la meilleure manière de forcer la GNSO à le faire? Parce que la dernière chose que l'on voit, c'est une structure qui vous est imposée. Exactement ce qui s'est passé la dernière fois au sein du Conseil. On vous a dit, bon, voilà ce qui va se passer, ABCD est terminé. Alors, je peux vous donner une liste pendant toute la journée de tout ce qui ne va pas au niveau de la structure de la GNSO, de la manière dont le Conseil fonctionne, etc. Cela ne sert absolument à rien si je n'ai pas des personnes qui sont affectées et qui s'expriment. Alors, ce que je souhaite vous dire, ce que j'ai à faire, c'est de prendre des questions spécifiques. Alors, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez raconter des anecdotes, etc. Et le Conseil doit avoir des informations, doit avoir des informations plutôt que de dire « voilà notre résolution, appliquez-la hein, ». Parce que c'est la méthode marteau. Et je ne pense pas que le marteau soit la méthode efficace. Donc, moi, je vous encouragerais à prendre ces questions, à faire une liste de ces questions. Et je pense que Renalia vous a invité à le faire. Et je vous encourage à rencontrer la communauté dans son ensemble ou certains sous-ensembles de la communauté, je sais. Et dites-nous ce qui ne va pas. Et où souhaitez-vous en arriver? Que souhaitez-vous voir changer? Est-ce qu'il faut complètement changer la structure pour arriver au résultat que vous souhaitez voir? Ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Par exemple, vous avez parlé du conseil de la GNSO. Eh bien, il y a des gens qui se plaignent constamment de ce conseil. Clairement, ça n'avait jamais été créé pour être une entité gouverne. Et donc, dans les détails là-dessus. Mais le fait est qu'il existe des choses que l'on peut faire, on peut changer les choses, sans changer toute la structure. Il y a sans doute certaines choses qui ne peuvent changer qu'en modifiant toute la structure. Mais il faut avoir des points spécifiques. Une fois qu'on aura des points spécifiques, on pourra passer. Donc moi, je vous conseille d'écouter l'invitation de Renalia, d'aller la voir, de rencontrer des membres de la communauté. Et ensuite, vous arriverez au résultat que vous souhaitez voir. Tony Holmes, au micro. Merci, c'est très utile. Alors, la dernière chose, effectivement, qu'on souhaitait voir, c'est que le Conseil nous impose quelque chose. Mais on cherchait à obtenir un cadre, de manière, un cadre de travail pour pouvoir avancer. Et donc, ceci est utile. Et je suis prêt à discuter avec vous, Renalia. Effectivement, c'est une bonne étape pour nous. Il y a certaines questions qui sont spécifiques à la GNSO, mais il y en a d'autres. Il nous faudra effectivement entrer en lien avec la communauté parce que cible que la communauté ait des choses à dire par rapport à ce que nous pensons. Moi, je pense que cela aussi en fait partie. Gang Kleinrichter au micro. Il n'y a pas lieu de répéter ce que viennent de dire et Renalia. Mais je dois dire qu'on ne peut pas faire ceci de manière isolée, isolée du reste de la communauté, parce que nous allons, si nous n'arrivons pas à réussir en termes de responsabilité, il y aura la piste de travail 3, d'accord ? Donc, je crois qu'il faut commencer ici et maintenant, et il faut commencer du bas. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir du conseil d'administration et... effectivement, le conseil n'est pas le bas. Le bas, c'est les unités constitutives. Donc, hier, on a parlé du processus multipartite ascendant et je crois qu'il nous faut absolument utiliser notre imagination et prendre en considération qui sont les acteurs. Il faut comprendre ces différentes unités constitutives, savoir ce qu'elles souhaitent. Donc, il faut vraiment sortir un petit peu de cadre de référence type, parce qu'effectivement, cela ne doit pas venir de la GNSO. Tony Holmes, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est pour ça que le moment est venu. Merci beaucoup pour cette réponse très positive. Je crois que nous avons maintenant les moyens d'avancer. Il y a eu beaucoup de préoccupations là-dessus, non seulement dans notre groupe de représentants, mais dans d'autres groupes de représentants. Je pense que nous avons terminé. Si on regarde le chronomètre, donc on va peut-être passer à autre chose. Nouvel intervenant au micro. Merci beaucoup. Nous remercions les ISP pour cette discussion, cette excellente discussion, ainsi que pour le respect des délais. Et maintenant, je vais inviter l'unité constitutive des utilisateurs commerciaux.
Thanks, Greg.
Steve DiBianco pour les utilisateurs commerciaux. Nous avons Suzy, nous avons David Ferris, notre liaison entre le BC et l'unité constitutive des représentants commerciaux. Nous avons également notre responsable financier avec nous, Jim Sun. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un dialogue. Nous essayons de nous améliorer d'ailleurs là-dessus et nous allons parler de l'avenir des GTLD, l'expansion future des GTLD, et nous essayons d'avoir votre point de vue et votre avis. Nous aimerions avoir votre point de vue par rapport à ce que pense le conseil d'administration dans le cadre de ce débat sur la série suivante, et nous essayons d'avoir votre avis pour être plus efficace au sein de l'unité constitutive des utilisateurs commerciaux. Vous savez que nous avons une excellente éthique de travail. Nous participons aux groupes de travail, aux équipes de révision. Nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer d'écouter les commentaires publics, mais parfois cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un autre type de dialogue au moment et cela nous permettra d'en arriver au résultat, si nous arrivons à bien dialoguer. Donc, voilà ce que nous souhaitons faire. Alors, en ce qui concerne la série suivante, vous le savez tous, il y a plusieurs révisions qui sont requises. Et donc, la question qui se présente, je crois qu'il y a 9 révisions, c'est ça ? Pour certaines, focalisées uniquement sur l'expansion du nouveau GTLD. Alors, la question, c'est quelles sont les révisions qui devraient être terminées avant que la nouvelle série soit ouverte, lancée ? Et quels sont les aspects des révisions qui doivent être acceptés et implémentés avant d'ouvrir la voie à la nouvelle série? Alors, donc, pour un petit peu lancer la discussion, la grande révision des nouveaux GTLD, confirmation d'engagement. Et donc, c'est une révision qui est requise pour le programme des nouveaux GTLD. Participer à l'évolution ou le développement d'outils de mesure, et donc de manière à avoir en fait une référence pour améliorer ce que nous avons vu en termes de confiance du consommateur, de concurrence et de choix du consommateur. Donc, les recommandations qui sont ressorties de cette équipe de révision, eh bien, quel est le lien avec cela et l'avenir? Je pense que cela pourra durer un an, voire peut-être deux ans. Et donc, on avait prévu un début au début 2016. Donc, il y a donc des essais de simulation de crise également. Et donc, le PDG a tout à fait soutenu notre travail. Nous avons revu le programme des nouveaux GTLD. Et donc, le CCWG avait également proposé que lorsque on amène ceci, la nouvelle série ne devrait pas être lancée avant l'implémentation des recommandations de la révision de l'affirmation d'engagement. Je dois dire que le dialogue a été très constructif avec Renalia dans cette administration et je vous donne cet exemple parce que c'est un excellent exemple. Au début, on nous avait dit oui, il faudrait y avoir une discrétion totale par rapport à la révision des recommandations. Et donc, on a eu un ou deux appels et on a évolué dans un autre sens finalement. Et nous nous sommes dit, au sein de l'équipe de révision, soyons très spécifiques, établissons la priorité des recommandations et ensuite indiquons quelles sont celles que nous devons mettre en œuvre avant la série suivante. Peut-être qu'il faut d'abord mettre celle-ci en œuvre avant que les candidatures soient acceptées, etc. Donc, je crois que les points de vue de Renalia et de l'équipe de révision ont été excellentes. C'est exactement ce que nous voyons. Et le conseil d'administration est la seule partie qui ait fait un commentaire là-dessus. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres parties qui ont raté ceci. Le dialogue a été excellent et j'espère que nous allons poursuivre les choses en ce sens. Donc voilà comment j'aimerais introduire ceci. Il y a plusieurs révisions. Ce n'est pas uniquement la révision sur l'affirmation d'engagement, il y en a beaucoup et chacune obtiendra des recommandations avec un impact sur le calendrier. Et donc, il y a l'intention du conseil d'administration de lancer assez rapidement la nouvelle série de la pression du marché à cause de certains engagements et puis, bien sûr, la pression des BC qui souhaitent donc lancer certaines marques. Donc, moi, j'aimerais ouvrir le dialogue avec le conseil d'administration ou avec d'autres qui souhaitent prendre la parole. Bruce au micro. Alors, on peut peut-être commencer là-dessus. Fadi, est-ce qu'on pourrait avoir une réponse par rapport au lancement de la révision, au début de la révision? Matalin, au micro. La révision CCT a déjà commencé. Elle a commencé lors de l'exercice 2015. Nous avons rassemblé les outils de mesure à ce moment-là. Donc, la révision demandait à ce qu'on mesure certains paramètres. Et donc, l'idée, c'était de mesurer les effets des nouveaux GTLD. Donc, le premier outil de mesure, c'était tout l'ensemble d'outils de mesure, a commencé donc au début de l'exercice 2015. Un certain nombre de ces informations ont été publiées au début de l'année civile 2015 et ensuite, donc, nous commencerons au début de l'année 2016 pour ce qui est des outils de mesure suivants. Et ceci sera renvoyer à l'équipe de révision une fois que ces outils de mesure seront prêts. Et nous sommes en train justement de former cette équipe actuellement. Nous espérons que d'ici le début de 2016, tout le nécessaire sera préparé, que cette équipe puisse faire la révision. Alors, combien de temps la révision va-t-elle durer? Cela dépendra du travail de l'équipe de révision, de son calendrier, mais nous sommes là pour soutenir l'équipe pour qu'elle arrive à respecter des délais raisonnables. Alors, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il existe une résolution du conseil d'administration qui date d'il y a 2 à 3 semaines sur cette question. Le conseil d'administration a dit qu'il y a... je résume la résolution, mais qu'il y a beaucoup de travail qui est en cours dans les révisions et donc le conseil ne peut pas encore établir de date sans savoir quel va être le résultat de cette révision. Donc, plus nous approcherons de la date, plus le Conseil pourra prendre en considération ce qui aura été fait. Alors, dernier point à prendre en considération, la GNSO a entrepris de travailler par rapport à cette révision et donc suivant leur travail, eh bien, beaucoup de choses vont être influencées par ceci. Donc, il est très difficile de trouver une réponse à votre question. Je ne peux ni vous dire oui, ni vous dire non. Il y a encore pas mal de choses à faire. L'intervenant au micro, Bruce Tonkin. Je crois qu'en partie, la question, c'est la question des différentes étapes. Donc, d'après ce que vous nous dites, Akram, il y a un certain nombre de données qui ont été collectées, mais qu'il y en a d'autres qui vont être collectées l'année prochaine. Donc, en fait, l'équipe de révision n'est pas encore constituée, les membres n'ont pas été constitués, donc j'imagine qu'ils vont se retrouver un peu plus tard dans l'année. Je crois que collectivement, en tant que communauté, ce qui est important, c'est de donner des consignes très claires à cette équipe de révision. Parce que si je considère l'équipe de révision ATRT2, bien, certaines des informations n'étaient pas vraiment utiles pratiquement. Donc si on fait la révision du médiateur, si on fait la révision de l'ATRA, donc on n'arrête plus. Donc, il faut vraiment avoir des changements concrets. On ne peut pas tout changer en même temps. Donc, il faut également établir une liste des priorités. Il faut qu'il y ait une mission qui soit définie. On ne va pas simplement leur dire, allez, faites-nous une autre révision. C'est vraiment d'avoir des recommandations avec des priorités qui puissent être mises en œuvre au cours de 12 mois ou quel que soit le délai. Et donc, en ce qui concerne ce qui va se passer après la réception des recommandations, eh bien, il y aura sans doute un mélange de politique et d'amélioration opérationnelle. Alors, amélioration opérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le site web qui soumet les nouvelles candidatures des GTLD pourront être améliorés. Ou alors, ça pourra être une politique. Donc, dans le domaine des politiques, en avons qui traite de la confusion des différents noms. Donc là, on pourra suggérer un changement de politique là-dessus. Donc cela est utile. On ne considérait pas justement un rapport sur les politiques. On savait bien que c'était une question de paramètres. Ce que l'on voulait savoir, c'était vos pensées. Il y a des pressions pour avancer, nous en sommes conscients. Les recommandations que vous avez faites sont excellentes. Je crois qu'il faut effectivement demander à l'équipe de révision à former de nous dire qu'est-ce qui est opérationnel, qu'est-ce qui est plutôt lié aux politiques et qu'est-ce qui représente un obstacle. Alors, je voudrais faire un commentaire final et parler de la révision RPM. Alors, la composition de l'équipe, donc le président de l'ICANN, aide à nommer un membre mandé. L'expansion des GTLD concerne la GNSO et l'ALAC. Donc, c'est très focalisé. Et bien sûr que la CCNSO n'est pas aussi concernée, ERSAC, le GAC, peut-être un petit peu, mais quand même moins. Donc, la communauté est concernée. Donc, il faut beaucoup de participation de la part. Donc, ce qui concerne les recommandations, eh bien, soyez libéraux par rapport à ce que vous recevez en ce qui concerne l'aide de cette équipe. Et puis, il faut qu'il y ait participation de Bruce de la GNSO. Nous avons vu qu'il y avait une certaine flexibilité. Nous avons nommé des membres de l'équipe de révision. On conseille à nommer des membres de la révision. Donc, il serait inutile de contraindre la GNSO à deux représentants. Donc, soyez libéraux et permettez l'expansion.
Bill Corwin, on other kinds of...
Steve Del Bianco au micro, oui. Et pour ce qui concerne Phil Corwin sur les autres RPM, Phil Corwin au micro, oui, merci Steve. Je suis président des unités constitutives des utilisateurs commerciaux pour l'instant. Alors, lorsqu'il y a plusieurs révisions qui se chevauchent en même temps et que ça intervient au même moment que le deuxième cycle, dans une certaine mesure, les problèmes qui sont soulevés dans l'un se chevauchent sur ceux des autres. Et on est en train de préparer nos commentaires sur certaines des questions pour le cycle prochain des nouveaux GTLD. Également sur la révision des PDP, sur tous les domaines de premier niveau. Donc il y aura une période qui va s'achever fin novembre, puis en décembre, et un PDP qui va commencer au premier semestre de l'année prochaine. Mais ça a été créé spécifiquement pour les programmes des nouveaux GTLD. Il semblerait donc logique que si on va l'ajuster d'une manière ou une autre, ce soit fait avant le deuxième cycle. Si on regarde les résultats et on va faire des ajustements comme ça a été fait, il faut que ça arrive avant et non pas après le lancement du second cycle. Et c'est un test important parce que il y a des questions potentielles qui ont été posées pour ce qui concerne par exemple la période Sunrise, le centre d'échange d'informations sur les marques déposées. Et on ne sait pas si ce PDP va concerner uniquement les nouveaux TLD ou s'il va y avoir une révision sur le RDP qui n'a jamais été fait l'objet d'une révision depuis sa création. Donc la question est de savoir comment intégrer ces différentes révisions, périodes de commentaires, et les intégrons avant le lancement d'un second cycle. Donc j'aimerais demander aux membres du conseil d'administration de quelle manière, d'après eux, on pourrait intégrer tout cela avant le second cycle. Steve Crocker, micro. Oui, effectivement, il y a beaucoup de révisions et comment les intégrer, je comprends. Ce qui serait utile, ce serait d'avoir un aperçu général de toutes les révisions en cours et quels pourraient être les liens qui existent, peut-être un document de suivi. Vous avez parlé de la mise en œuvre des RPM avant ou après le deuxième cycle. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire par là. Phil Corwin au micro. Oui, on va lancer au cours du premier semestre de 2016 un PDP, peut-être deux PDP, peut-être en intégrant des ajustements RPM sur le programme des nouveaux GTLD et les ajustements qui les concernent. Donc, en modifiant les RPM, donc il est peu probable qu'il y ait des ajustements sur les RPM émanant de ce PDP lors du premier cycle. Donc, il semblerait logique que ces changements soient faits après. Donc, ce serait important de le faire avant le lancement de ce second cycle. Si le calendrier suit, on ne veut pas poursuivre ce deuxième cycle pour toujours. La communauté semble pencher en faveur d'un lancement d'un second cycle aussi vite que possible. Ce que nous n'aimerions pas, c'est que le premier groupe de TLD lancé lors du premier cycle ne soit pas couvert et qu'ensuite qu'il le soit parce que le PDP a été mis en œuvre. Il s'agit simplement de savoir comment intégrer tout cela dans la mécanique. Bruce Tonkin au micro, oui, c'est un petit peu un travail de programmation pour moi. Vous avez beaucoup de choses qui se produisent et il faut les intégrer et prendre des décisions. Donc, sachant que c'est un système complexe, ce n'est pas toujours possible. Lorsque les mécanismes de protection de droits seront, pour ce qui concerne les mécanismes de protection des droits, peut-être que tout travail qu'on va faire là-dessus devrait être lié à tout l'espace des noms de domaine. Ensuite, dans nos accords avec les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre, une fois que ça s'est approuvé, il faut qu'ensuite les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre les mettent en œuvre, ces mécanismes. Donc, vous pouvez introduire des nouveaux noms sur .com et sur d'autres noms de domaine. Et ça s'applique à un opérateur de registre en même temps. Donc, ça représente 5% de l'espace des noms de domaine. Phil au micro, oui, pour répondre très rapidement. Donc ça, on l'impose sur les nouveaux TLD, mais certains, pour ce qui concerne la période Sunrise, ne s'appliquent que pour la période de lancement. Et vous ne voulez pas qu'il y ait une période de lancement où il y a une première série qui est modifiée, puis une deuxième qui ne l'est pas. Vous voulez que les règles soient fixées avant ce deuxième cycle. Steve Del Bianco, on a encore deux questions. Bruce ? Susan Kalaguchi va nous parler de la deuxième question, parce que la première chose que vous avez faite lorsque vous avez présidé ce groupe, c'est d'essayer de modifier le nom de Whois. que Suzanne peut nous parler un peu plus des opportunités et des défis qui se posent dans le lien entre le programme des nouveaux GTLD et le RDS. Suzanne au micro, Suzanne Kawaguchi. Merci. Le rapport final pour la prochaine génération de RDS a été publié. Il y a une motion qui va être, dont va être saisi le Conseil demain. Donc, nous espérons que il y aura une nouvelle PDP. Nous l'espérons rapidement d'ici l'année prochaine. Mais si la communauté complète ce travail, passe par toutes les étapes et arrive à temps pour le prochain cycle de candidature, est-ce que vous allez inclure cela comme condition pour mettre en œuvre dans les nouveaux GTLD ? Steve Crocker, micro. J'ai l'impression que cette question est chargée de sens. Oui, c'est une question qui me tient à cœur. J'apprécie beaucoup de pouvoir travailler avec vous et avec les autres groupes d'experts. Comme je l'ai dit lorsque vous avez lancé le processus il y a quelques années, je considérais qu'il s'agissait là de l'une des décisions les plus importantes. Le processus de WHOIS avait besoin d'être mis à jour, donc nous nous en félicitons. Mais je l'ai dit à l'époque, il fallait se montrer très prudent avant d'imposer une nouvelle série de règles. Donc je n'ai pas une réponse claire à vous donner par rapport au calendrier, mais je pense que la question c'est plutôt que savons-nous par rapport au lien entre toutes ces questions et ayons un aperçu général de la situation plutôt que de dire voilà, ce sera à telle date, on va faire ceci avant de faire cela. Et on ne veut pas être soumis à cela. Donc, très souvent, c'est utile de fixer une date et que ce soit un objectif, cette date. Mais là, il faut trouver un équilibre entre toutes ces choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en pleine évolution actuellement. Il faut voir bien comment évoluent toutes ces choses qui bougent. Il faut que le personnel ait cet aperçu général. Il faut voir quel est le calendrier pour le CCWG et les débats autour de la transition en général. Donc, attendre le mois prochain et retravailler le calendrier. On avait un calendrier jusqu'à présent, il faut le retravailler parce qu'il y a beaucoup d'interférences. C'est un fait. Il y a des interférences en termes de limites de ressources. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce que l'on doit faire, ce que l'on est en train de faire, essayer de le contrôler. Donc, quand il y a plusieurs révisions, plusieurs travaux en cours et vous perdez de vue comment ils sont liés les uns aux autres, ça devient compliqué. J'espère avoir répondu à votre question. Chris Despain au micro. Puis-je inverser la question en vous reposant la question à vous? Que pensez-vous que va faire la GNSO? Malheureusement, l'interprète a beaucoup de mal à entendre ce qui est dit dans la salle. Suzanne au micro. Oui, je répondrai que, comme l'a dit Steve d'ailleurs, on a eu deux excellentes diapos, l'une qui concerne les révisions et l'autre les groupes de travail. Et je pense qu'il y a une préoccupation par rapport à un engagement excessif de la part de la communauté, mais il faut faire ce travail. On va, je l'espère, approuver cela demain, peut-être pas, peut-être que ça va être remis à plus tard, mais on ne devrait pas commencer à travailler avant l'année prochaine. Chris Despain au micro. Donc, nous avons un groupe de travail du conseil d'administration. Ça, c'est une bonne chose. Et à titre personnel, je pense qu'il y a un danger à essayer de faire en sorte que tout soit parfait. Excusez-moi, mais l'interprète n'arrive vraiment pas à entendre ce qui est dit en salle. Il y a un problème de micro. Suzanne au micro, merci, oui. La première question ne voulait pas faire croire qu'il fallait s'assurer que ça allait être fait d'ici le deuxième cycle. Mais plutôt, nous l'espérons que cela soit fait. Steve Del Bianco au micro. Par rapport au prochain cycle, c'est David qui va en parler. Ce point est lié à la notion d'un guide ou d'une feuille de route et d'un guide d'orientation. David au micro. Merci Steve. En fait, il y a deux parties dans cette question. D'abord, il y a eu beaucoup d'enseignements tirés lors du dernier cycle des GTLD. Donc, est-ce qu'on va commencer de zéro avec un nouveau guide d'orientation, avec des commentaires publics pour s'adapter à ces enseignements tirés? Quelle va être la marche à suivre? Deuxièmement, pensez-vous que cela va être un processus continu ou qu'il y aura des cycles consécutifs de nouveaux GTLD? Steve Crocker, micro. Malcolm? Akram, pardon? Vous souhaitez répondre? Akram Atala au micro. Oui, on continue à poser toujours et toujours la même question. Le guide d'orientation, ça nous sert à mettre en œuvre la politique. En fonction des révisions et des recommandations qui émanent de ces révisions, il faut que nous les attendions pour commencer le prochain cycle. On ne sait pas si ce guide d'orientation va être tellement modifié qu'il va falloir en écrire un autre. Donc, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs par rapport à ce guide d'orientation. Savoir s'il y aura encore beaucoup d'autres cycles ou pas, ça, c'est un petit peu comme la politique de la GNSO. On va faire les nouveaux GTLD sous forme de cycles. Alors, Bruce Tonkin au micro. Moi, j'étais président de la GNSO, donc sur ce point qu'on a dit, c'est qu'on allait commencer à procéder à certains cycles, qu'il faut commencer à traiter le problème de la collision. Il y a des noms populaires qui sont appliqués, qui sont demandés. Et une fois qu'on a dépassé cela, vous allez pouvoir ensuite l'ouvrir à tous les autres, au reste du système d'enregistrement des noms de domaine. Donc, quand est savoir, est-ce qu'on devrait faire un autre cycle? Parce que vous pouvez avoir un cycle rotatif chaque année et fonctionner sur le système du premier arrivé, premier servi. Au début, il y a eu un cycle de 5. On a fait un autre cycle. Je ne sais pas combien de cycles on a fait en tout. Et si vous voulez être bureau d'enregistrement, vous présentez votre candidature. Donc, la politique consistait à dire, voilà, il faut arrêter les cycles parce qu'il faut d'abord s'occuper des processus sur la contention. Ramatala au micro, merci. Alors, pour conclure, une fois qu'on a les recommandations de l'équipe de révision sur cette question, ils vont certainement prendre en considération vos autres préoccupations par rapport aux cycles. Et on ne sait pas encore s'il faut les séparer des demandes pour les noms génériques. S'il y a des recommandations qui émanent de cela, il pourrait y avoir de meilleures manières de répondre à tous ces besoins. Steve Del Bianco, micro. Écoutez, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, l'unité constitutive suivante, celle de la propriété intellectuelle, aura moins de temps. Oui, Chris Despain au micro. Je vais laisser la parole à l'autre intervenant qui souhaitait poser la question. Steve Crowers au micro. Je voulais faire un commentaire sur les noms génériques et les marques déposées points. Alors, pour nous, c'est très important. Et on veut savoir, notamment par rapport au RPM, pour ceux qui ont participé au cycle 1 et aimeraient participer au cycle 2, ce qui nous intéresse ici, ce sont les marques déposées et les noms génériques. Et d'ici 4-5 ans, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? D'abord, est-ce que, je le répète, ceux qui n'ont pas participé au cycle 1 peuvent participer au cycle 2? Chris Despain au micro. On l'a entendu à l'At-Large ce matin et à la SACNSO, savoir s'il faudrait qu'il y ait une période de commentaires publics, s'il faudrait qu'il y ait une réunion intercession pour débattre de la contribution du CCWG. Je voudrais savoir si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Steve Del Bianco, oui, nous allons le faire cet après-midi. Moi, les mêmes questions m'intéressent. Chris Despain au micro. Oui, vous allez donc nous donner vos commentaires là-dessus. Steve Del Bianco, merci. Les IPC, c'est-à-dire Unité Constitutive de Propriété Intellectuelle, c'est à vous.
Thank you. Appreciate the opportunity.
Merci beaucoup. Craig Chatton, président de l'Unité Constitutive de la Propriété Intellectuelle. Donc, on va commencer par présenter les nouveaux membres. Vicky Shetler. Steve Metallic, vice-président de l'unité constitutive. Mark Tracker. Marcus. Karen Bernstein. Karen. Merci. La question qu'on voulait aborder avec le conseil d'administration aujourd'hui, ce sont des questions qui existent depuis des années. La question de la conformité contractuelle et de la réglementation des contenus et le concept d'application volontaire et des normes volontaires. J'aimerais demander à Steve Metallitz de commencer cette discussion. Steve, au micro. Merci beaucoup. Je vais vous donner un aperçu de cette question. Il y a eu beaucoup d'aspects changeants sur cette question très récemment. Hier, lorsque Fadi en a parlé en plénière, ce que l'on a retenu, ce qui était très important pour nous, c'est que l'ICANN reconnaît qu'il y a un problème grave dans l'utilisation des noms de domaine à des fins illégales et illicites. Ça, c'est un rôle important et que l'ICANN a un rôle important à jouer pour régler cette situation. Nous pensons que ce message peut être réitéré afin d'éliminer tout malentendu qui aurait pu exister par le passé. Pour dissiper tout malentendu, on n'a jamais demandé à l'ICANN d'être le gendarme du contenu, simplement d'appliquer les conditions du contrat passé. J'aimerais être claire là-dessus. Autre évolution récente, le message posté par Alan Grogan au début du mois demandant au bureau d'enregistrement de faire une enquête quant à la possibilité et de faire un rapport sur ce type d'activité illégale. Et il y a des normes minimales qui existent et elles ne constituent, d'après nous, pas une réponse adéquate. Et nous pensons que cela va au-delà de ce que font la plupart des bureaux d'enregistrement actuellement. Donc, nous espérons qu'il y aura des activités de conformité pour s'assurer de l'application de ces règles afin de travailler davantage sur la mise en place de normes minimales significatives. On aura plus de commentaires de la part de Greg là-dessus. Le deuxième point qui est apparu dans les commentaires de Fadi et ça va être au cœur de nos discussions demain, c'est les intermédiaires de l'Internet. Nos membres et nos participants ont eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ça a été utile et c'est une voie qu'il est important d'approfondir. Mais nous savons que l'utilité de ces accords basés sur le volontariat sont importants, mais dépendent des mesures d'encouragement que les parties prenantes sont disposées à fournir. Donc, l'ICANN, d'après nous, a un rôle très important à jouer pour aider à réunir autour d'une même table les parties prenantes. Mais il faut que l'ICANN le fasse en utilisant les encouragements qu'il peut apporter dans ce processus. Et nous sommes également d'accord avec Fadi, qui a dit que l'ICANN n'allait pas, de son propre chef, organiser ce genre de rencontre. Ensuite, je sais que Marc aura plus de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais souligner que notre première demande, notre organisation, notre demande la plus importante à l'organisation, c'est que l'ICANN devrait renforcer ses contrats avec les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Et également dans les accords avec les nouveaux GTLD, concernant les nouveaux GTLD, s'il faut qu'il y ait des efforts volontaires, ils ne vont pas fonctionner s'il n'y a pas de volonté forte d'application. Il faut également essayer de convaincre les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement de travailler de manière coopérative avec les personnes qui demandent des droits et avec les autres. Donc il faut travailler là-dessus aussi. Peut-être que je vais maintenant céder la parole à Greg, qui va vous donner plus de détails sur ces questions.
Greg au micro. Merci, Steve. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'entrer en dialogue pour avoir un petit peu votre point de vue, votre optique au niveau du conseil d'administration. Alors, en ce qui concerne la conformité, vous savez que de plus en plus, la conformité est importante et on aimerait savoir quel sens vous pensez que ce travail avec les différentes normes va prendre. Donc, l'idée, ce serait de détailler les concepts que Alan a commencé à explorer dans son blog et, en fin de compte, d'arriver à une solution qui puisse être mise en œuvre et qui est valable pour toutes les parties, de manière à ce que nous ne nous retrouvions pas avec cette étude et cette impossibilité d'avancer. Alors, j'aimerais un petit peu savoir ce que pense le Conseil et quelle est sa réaction à la présentation de Fadi hier, justement, sur ces points. Vous êtes prêts? Nouvelle intervenante au micro. Steve et Greg, je recommanderais que nous attendions le groupe de travail de demain. Nous allons nous rassembler et parler justement de ce sujet. Alan Grogan sera invité à ce groupe et j'imagine que certains membres du Conseil seront présents. J'y serai moi aussi et je crois que ce type de discussion doit être lancé dans ce type d'organisation. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un rapport après? On en parlera avec le Conseil après. Je comprends qu'il y aura des présentations sur différents aspects. Car au micro, je préférerais attendre en fait et revenir vers vous plutôt que d'imaginer un débat potentiel. Alors, nous sommes impliqués, nous essayons de guider le débat dans le bon sens, mais étant donné le timing, c'est un petit peu difficile de parler. Greg au micro. Bon, c'est bien, la cible se déplace, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, la cible se déplace. Greg au micro, je vais repasser la parole à Marc. Parler de la question des normes. Des normes volontaires. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les arrangements volontaires avec d'autres intermédiaires de l'Internet, par rapport, par exemple, les compagnies de traitement des cartes de crédit, peuvent être un secteur et peuvent être une voie utile dans ce contexte. Cependant, nous ne pensons pas que l'exemple des traitements des cartes de crédit soit une bonne analogie pour cette question. Et la raison, c'est que c'est les opérateurs de cartes de crédit ont en fait une incitation pour une investigation des sites qui promeuvent des activités illégales. Et donc, ce type de sites sont en général associés avec des activités frauduleuses, paiements frauduleux. Et donc, cela, bien sûr, a un impact en termes de coûts sur les compagnies de cartes de crédit. Et donc, bien sûr qu'à l'avenir, ce coût potentiel représente une incitation. Ceci n'existe pas dans le domaine des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement. Donc, comme Steve l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait des normes volontaires, utiles et qui soient réussies, eh bien, il faut qu'il y ait une incitation pour que les parties se conforment à ces normes. Alors, une des possibilités, d'autres, serait d'avoir une situation où ces opérateurs et bureaux qui ne sont pas conformes aux normes soit soumise à peut-être des sanctions de la part de l'ICANN. Je crois que d'une manière générale, du point de vue des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre, je crois que l'idée c'est de rassembler les gens autour d'une table pour s'assurer que ces normes existent, pour s'assurer que tout le monde soit d'accord par rapport à ces normes, parce que la signification n'existe que s'il y a une protection des droits des détenteurs de la, la propriété intellectuelle. Pardon. Je dois vous dire que, à mon avis, nous n'en sommes jamais arrivés à un tel niveau d'alignement dans notre mode de pensée. Donc, de mon point de vue, nous sommes alignés avec le message dont j'ai fait part lundi matin. L'ICANN a des responsabilités et elle ne peut pas se défaire de ses responsabilités. Elle ne peut pas les ignorer. Donc, nous, en tant que communauté ICANN, des responsabilités. Maintenant, nous sommes tous d'accord sur deux points qui, avant, n'étaient clairs pour moi, bien honnêtement. Premièrement, les mécanismes volontaires, cela pourrait représenter la voie de l'avenir, mais il faut bien sûr qu'ils soient incitatifs, puissent être mis en place. C'est déjà un bon début. Pas se lancer dans un contrat, mais il faut déjà qu'il y ait certains mécanismes qui puissent correspondre à la nature transnationale avec les différentes juridictions dont on parle. Alors, je parlais à une époque à des membres de votre communauté, membres d'ailleurs assez prééminents de votre communauté, qui disaient que le Congrès américain venait justement d'adopter une loi parfaite pour cela. Et, mais cela est inutile si on ne considère pas l'environnement mondial. Mais vous l'avez dit, Marc, et je suis d'accord avec vous. Il nous faut nous assurer que ces mécanismes puissent être incitatifs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les opérateurs de registres et les bureaux d'enregistrement ont quand même leur réputation à protéger. Mais il faut nous assurer que ce régime, ce mécanisme soit commun. Alors, deuxième point sur lequel on est d'accord, et je pense qu'à une époque, ce n'était pas le cas, en tout cas, c'est peut-être ma faute d'ailleurs, l'ICANN ne propose pas de solution à cette question, mais l'ICANN doit participer. Nous ne sommes pas en dehors de la solution, nous en faisons vraiment partie. Mais la solution est plus large que l'ICANN, elle va au-delà de notre accord, et comme je l'ai expliqué hier dans ma diapositive, déterminer ne dépend pas uniquement de vous. Nous n'avons même pas les unités constitutives ici présentes pour prendre la décision. Je crois que nous sommes torts à la base, mais il nous faut vraiment avoir un engagement de la part de tous pour ce que nous décidons. Et donc, voilà pourquoi j'avais mis ceci dans le calendrier pour lundi matin. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'avais mis sur mon calendrier pour le lundi matin. Tous les membres de la transition, de l'AGM, quand mon équipe m'a demandé ce qui était le plus important, eh bien, c'est là-dessus que j'ai répondu. C'est donc là-dessus que je souhaite travailler, parce que je veux que mon équipe travaille ce point. Donc, je suis très content de savoir que le conseil d'administration participe à ce dialogue, parce que tous nous devons soutenir le travail d'une part des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement qui souhaitent avoir un dialogue, qui souhaitent participer à la solution, et de l'autre côté de la communauté, donc de propriété intellectuelle, qui à mon avis en arrive à un niveau de frustration important. D'ailleurs, il faut s'en occuper, mais il faut que nous comprenions tous que la mission de l'ICANN, le mandat de l'ICANN, c'est de faire partie de la solution. Nous devons donc amener la communauté à travailler à cette solution et à la mettre en place. Donc, je pense qu'il nous faut trouver l'espace, le temps pour travailler ce point. Alors, et enfin, Steve, en tant que président, donc nous traitons de cette question de la communauté IP qui, en fin de compte, vit de la communauté. Vous faites partie de notre communauté. Donc, nous allons avoir les mêmes problèmes bientôt, très bientôt, dans beaucoup d'autres domaines. Nous avons mentionné un petit peu la question des produits pharmaceutiques, mais il y a la question de la criminalité, la question du terrorisme. Donc, les communautés, les unes après les autres, vont s'adresser à nous et vont nous dire « Nous avons besoin que vous agissiez. » Et nous allons leur répondre de la manière « Nous devons agir sur la base de mécanismes que nous n'avons pas, qui ne peuvent pas appartenir à la communauté ICANN. » Par contre, il nous faut et savoir comment nous allons participer, comment nous allons suivre la communauté par rapport à ces mécanismes. Donc, nous pouvons déjà avoir ici un point de référence, un point de base, une pierre angulaire de manière à ce que la communauté fasse partie de la solution. J'espère que c'est utile, Greg, l'intervenant au micro. Fadi, vos commentaires sont excellents et très utiles. Alors, j'aimerais clarifier quand même une chose. Nous ne considérons pas les normes comme séparées de la conformité. Cela fait partie de la conformité du contrat. Les normes pour s'assurer que les opérateurs d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement sont en conforme à leurs obligations actuelles. Donc, juste pour clarifier ce point, il faut que ce soit un travail commun. Nouvel intervenant au micro. J'ajoute ce que vous venez me dire m'encourage, mais s'il y a des choses que l'ICANN peut faire et doit faire, et cela donc à la base c'est déjà l'exécution du contrat de l'ICANN, alors cela ne fait pas partie peut-être des domaines fondamentaux dont on a parlé, par exemple des sites web qui sont des sites web de piratage, etc. Mais l'ICANN doit quand même est quand même responsable de l'intérêt public. Et donc, il y a des responsabilités. Je crois qu'on a eu des signaux assez mixtes de la part d'Alan Grunberg sur cette question. Donc, qui est cela? Et en ce qui concerne la séance de Buenos Aires, où nous avons quand même eu beaucoup de discussions avec le Conseil qui n'est pas très positive, donc nous avons parlé de la conformité par rapport à la question du point SOX. Nous avons exposé nos préoccupations par rapport à ça. Donc, la question est plus large. Il faut que l'ICANN puisse faire exécuter son contrat. Et je crois que c'est très important. Ce que l'ICANN doit faire, bien, c'est déjà d'être responsable. C'est ce que nous cherchons voir dans le cadre de ce. J'aimerais quand même souligner cela, parce que c'est un des éléments clés qui, à notre avis, doit être un des points de focalisation de l'ICANN. Karen Millen. Au micro. Je crois que mon commentaire est similaire à ce que Steve vient de dire. En ce qui concerne la conformité au contrat, ce que vous avez dit, Fadi, était très intéressant. Vous avez dit qu'il y a une responsabilité par rapport à ça. Ce n'est pas uniquement une responsabilité, mais en fait une opportunité pour les personnes qui sont impliquées dans la conversation par rapport à cette. Et je crois que les bureaux d'enregistrement, ainsi que la propriété intellectuelle et la protection des marques, tout ceci nous concerne. Et donc, je crois qu'il nous faut prendre en considération le texte de ces accords. Et peut-être qu'on a la même impression de ce que le texte impose. Mais je crois que tous, nous devons discuter et avoir une perspective commune. Et c'est peut-être un des domaines où on peut peut-être réfléchir à la conformité. La conformité pourrait nous rassembler plutôt que de nous demander de choisir un camp. Il faudrait en fait que la conformité soit plus grande, nous explique exactement ce que signifie le texte. Et souvent, on voit des exemples comme quoi on considère le texte d'une certaine manière. Et souvent, on nous dit, oui, la conformité, c'est terminé. On ne sait pas exactement comment ils ont interprété le texte, comment ils ont interprété les réponses. Donc, sans avoir un environnement, nous ne saisissons pas toutes les opportunités vraiment d'établir une compréhension générale, un accord général sur la signification des choses. Donc, du point de vue de la transparence, il y a un problème. Et puis, il y a des messages mixtes également. Je ne sais pas si cela est le résultat des questions qui sont posées peut-être de manière un petit peu différente. Donc, parfois, la réponse est différente. La question a été posée d'une manière ou d'une autre. Mais si je devais résumer en une phrase, je dirais simplement... Aidez-nous à opérer dans un espace où les choses sont claires pour toute la communauté. Et au micro. Alors, je vais m'engager M. Grogan. J'espère qu'il est là, oui. Nous allons donc lier aussi rapidement que possible deux documents de clarification, selon ce que vous m'avez déjà. Pourquoi? Quels sont les raisonnements? Comme vous venez de le dire, je vais en équipe, mais... Pourquoi est-ce que parfois nous ne rentrons pas dans les détails des plaintes et le processus selon lequel nous sommes arrivés à une conclusion? Il y a peut-être des raisons, mais en tout cas, s'il y a des raisons, nous les expliquions. Donc, Alan, ce serait bien qu'on le fasse. Alors, la deuxième chose que vous venez de demander, c'est donc quel est notre point de vue par rapport à l'intérêt public. Donc, je vais demander à ce que ces deux choses soient clarifiées, parce que vous avez raison. Il nous faut absolument opérer de manière très claire. Cela sera beaucoup plus simple pour les opérateurs de registre, pour les bureaux d'enregistrement, pour vous et pour nous. Donc, nous allons clarifier ceci. Nouvel intervenant au micro. Alors, quelques questions d'ordre général. Premièrement, ce qui serait utile, c'est de savoir ce que vous pensez du travail qui se passe au niveau de la responsabilité. Peut-être qu'il y a des questions qui sont encore ouvertes. Est-ce que vous avez des opinions sur les modèles de mise en application ? Ce serait quand même intéressant de savoir quel est le point de vue de cette unité constitutive. L'intervenant au micro. En ce qui concerne la responsabilité, cette question sera traitée dans d'autres sessions. Nous espérions en fait utiliser le temps que nous avions pour parler des sujets que l'on a mentionnés tout à l'heure. Je préférerais que la question de la responsabilité soit traitée au sein du CCDG, etc. Et quand est-ce que le conseil d'administration vous parlera de ça? Chris Espin au micro. Nous avons eu une... Non, nouvel intervenant au micro. Alors, nous avons beaucoup discuté lors de notre réunion commerciale de cette question. Nous avons continué le dialogue là-dessus. Et je crois que notre point de vue, c'est que le processus commence à passer au mode de travail, à un mode de travail qui est meilleur. Je ne sais pas si on peut parler de résultats, mais en tout cas, le sentiment dans la salle est meilleur par rapport aux semaines. Là, c'est ce que je peux dire là-dessus. Et je pense que on peut en arriver à un meilleur résultat. Alors, il nous faut nous assurer que ce qui ressortira de ce processus reconnaisse et confirme la capacité de l'ICANN à interpréter et à exécuter ces contrats. Il y a beaucoup de manières de le faire et je ne vous recommande pas une formule spécifique, mais je crois que c'est un point important pour nous en termes de résultats du processus sur la responsabilité. Chris, au micro. Pour que les choses soient claires, nous vous demandons votre point de vue. Nous souhaitons réellement savoir quels sont les problèmes que vous avez eus en termes de logistique, par exemple. Parce que ce processus, eh bien, il va falloir le gérer, en fin de compte. Donc, nous espérons réellement avoir des informations de la part de tous au niveau du Conseil. Tout à fait. Et nous sommes prêts à dialoguer là-dessus en tant qu'unité constitutive. Et il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de résultat final que nous définissons. Il y a des démarches qui sont dans le document, et d'ailleurs le document est un document préliminaire. Et il y a des préoccupations importantes. Et effectivement, si certains de ces points restent dans le document selon ce qu'est actuellement, eh bien, on peut éliminer toute la discussion qu'on vient d'avoir. Mais Paddy nous a dit que l'ICANN ne travaillait pas dans ce sens. Donc, encore une fois, si nous avons les bons processus et de la bonne volonté, je pense que toutes les solutions devraient pouvoir être... Tony Holmes au micro. Alors, pour répondre à la question de Chris, nous en parlerons cet après-midi lors des réunions de nos unités constitutives et nous sommes prêts à vous faire part des points clés qui ressortiront de notre discussion à ce moment-là. Il y a d'autres groupes également qui vont se retrouver dans l'après-midi et donc nous n'avons pas encore leur terme, mais c'est quand même utile. Alors, autre question, quels sont les moyens d'améliorer le dialogue entre le conseil d'administration et la communauté? Donc, il y a eu des commentaires qui ont été faits au niveau du personnel. Vous souhaitez mieux entrer en lien avec le personnel sur la question de la conformité, mais je crois qu'il y a aussi la question d'entrer en lien le conseil d'administration. Est-ce que ces séances-là pourraient être mieux organisées? Karen, au micro. Je vais être très brève. Je pense qu'avoir davantage d'opportunités de dialoguer comme ceci, ce serait très bien, mais je crois que le problème, c'est que personne n'a d'en en plus, n'est-ce pas? Nous sommes tous limités dans le temps. Donc, repensons aux 3 derniers mois. À chaque fois que ces réunions arrivent, essaye de ce sur quoi on souhaite dialoguer, se concentrer sur les points principaux en quelques minutes, 30 minutes, voire moins. Et donc, le fait de pouvoir s'asseoir à cette table... toujours limité dans le temps, c'est toujours un petit peu notre problème. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. Il y a la question du temps. Réunion et puis peut-être organiser des séances de remue-ménage pour voir un petit peu comment améliorer le dialogue. Tony Holmes au micro. Je ne peux pas m'empêcher de dire que nous apprécions le fait que puissions justement avoir ces conversations séparées en tant qu'unité constitutive. C'est extrêmement utile pour nous. Aujourd'hui, vous avez déjà entendu un certain nombre de questions. Avant, on avait uniquement une demi-heure et la moitié de ces questions ne seraient jamais remontées à la surface en une demi-heure. Donc, en tout cas, je voudrais simplement dire que nous apprécions. Un dernier point. Je crois que c'est très bien d'avoir ces opportunités de dialoguer de manière assez informelle et formelle. Parce que de temps à autre, je rencontre des membres du conseil d'administration qui sont là une bière à la main, c'est sûr. Mais c'est évident, ces réunions que nous avons trois fois par an sont quand même sous pression. Alors peut-être que l'option, ce serait de savoir comment dialoguer pendant le reste des semaines de l'année, pendant les 48 semaines qui restent. Que peut George Sedowski au micro? Je suis d'accord, Greg, mais moi, j'y ai réfléchi un petit peu à cela et je me dis que nous nous retrouvons donc pendant la semaine, nous nous retrouvons de manière électronique et je me demande si on ne pourrait pas améliorer un petit peu le processus. Je ne sais pas que suggérer. Ce que nous ne savons pas, si vous, au niveau de votre unité constitutive, vous en parlez. Nous, au niveau du Conseil, nous en parlons. En tout cas, j'ai une suggestion et ce serait de vous poser la question de savoir comment est-ce que nous pouvons entrer au cœur des questions de manière taillée, de manière plus satisfaisante en termes de résultats. Alors, j'ai encore un commentaire à faire en termes de processus sur la responsabilité. Il y a une tendance à définir la conversation de la manière suivante. C'est eux contre nous. Et étant donné le fait que les unités constitutives ont différents pouvoirs, ils ne sont pas ceux du Conseil, c'est un petit peu naturel de réfléchir de cette manière. Mais ce n'est pas le eux contre nous, c'est vraiment nous contre nous. Il faut que la situation soit considérée du point de vue gagnant-gagnant. En tant que communauté, nous sommes dans la communauté, nous revenons dans la communauté. C'est un peu biblique comme histoire. Je crois que nous faisons partie de vous et vous faites partie de nous. La situation est une situation gagnant-gagnant. Ce n'est pas un processus processus guerrier. Nouvel intervenant au micro. Alors, un petit commentaire, commentaire d'appréciation de l'IPC. Je fais partie d'une société qui représente plusieurs sociétés. Ces questions, nous en parlons tous les jours. Et nous considérons vraiment ces questions comme des questions d'infrastructure pour l'avenir de l'ICANN, pour la série suivante, etc. Et au fur et à mesure que ces questions se présentent et qui sont prises en considération, eh bien, elles sont considérées comme la base de la réussite de la série suivante, avec davantage de personnes qui vont participer à cette série suivante. C'est une attitude. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est important de prendre en considération ces questions. Et donc, je voudrais vraiment remercier l'IPC d'avoir abordé ces questions avec le Conseil. Greg, je crois que nous avons dépassé le temps imparti, donc je souhaiterais remercier le Conseil pour sa participation à cette discussion. Nous avons parlé à chacune des unités constitutives du groupe des représentants des entités commerciales. Donc voilà, au micro. Merci Greg, il a été très utile d'entrer en lien avec vous et ce format de séparation du temps, de manière à parler à chaque unité constitutive, parler à tout le monde en même temps. Je crois que effectivement, c'est utile parce que cela nous a permis de nous concentrer davantage aux détails et aux intérêts de chacune des unités constitutives. Ce que nous apprenons dans le cadre de ce processus, et d'ailleurs nous avions arrangé la table la dernière fois d'une manière un petit peu différente. Mais je crois que ce que nous apprenons, c'est qu'il nous faut avoir des solutions personnalisées presque pour chaque unité constitutive. Et en tout cas, personnellement, je suis ravie de le faire. Pour nous, ce n'est pas une question de format, c'est une question vraiment de nous adapter à vous. En tout cas, merci. Nous allons continuer à communiquer comme nous avons pu le faire déjà pendant la semaine. Merci.